VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 2 mai 2022. Jean-Roger Mion à ce micro, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le secrétaire général de l'ONU poursuit aujourd'hui sa tournée ouest-africaine au Niger. Il était hier à Dakar, au Sénégal. Le président tunisien annonce un dialogue national. Kais Saied a exclu toute participation des partis politiques. Éthiopie, des échauffourées ont marqué aujourd'hui une prière de l'Aïd à Addis Abeba. Au Nigeria, 8 personnes sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages. En Ukraine, les évacuations de Mariupol continuent. L'ONU fait état de plus de 3000 civils tués depuis le début de la guerre. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est aujourd'hui au Niger avant de terminer son périple ouest-africain par le Nigeria à partir de demain. Le chef de l'ONU a souhaité dimanche au Sénégal que les juntes militaires au Burkina Faso, en Guinée et au Mali s'effacent au plus vite et a exhorté les pays les plus riches à tenir sans tarder leur promesse d'aide au sud face à l'urgence climatique. On écoute Antonio Guterres.
S'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, nous avons évoqué entre autres les efforts conjoints contre le terrorisme et l'extrémisme violent, ainsi que la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. À cet égard, nous avons convenu de l'importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto des 3 pays afin d'instaurer le retour à l'ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en relief à l'issue de ses entretiens avec son hôte, Macky Sall, que la guerre en Ukraine aggrave une triple crise alimentaire, énergétique et financière, cela à travers tout le continent. Le président sénégalais, qui est aussi président en exercice de l'Union africaine, a souligné pour sa part une tragédie humaine.
Nous pensons qu'il faut une désescalade sur le théâtre ukrainien. Et en tout cas, l'Afrique, en ce qui la concerne, travaillera dans cette perspective de paix, de désescalade et de privilégier le dialogue pour que finalement les Russes et les Ukrainiens puissent trouver une voie de sortie en impliquant bien entendu toutes les autres parties qui agissent sur ce conflit.
Le président sénégalais Macky Sall. La France a exprimé aujourd'hui son attachement à la tenue dans les meilleurs délais possibles d'un dialogue de réconciliation au Tchad, cela au lendemain de l'annonce par la junte du report inédit de ce dialogue. La France apporte son soutien donc aux efforts déployés en ce sens par les autorités et les parties tchadiennes avec l'appui du Qatar et des partenaires internationaux du pays, a déclaré ce lundi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Le Conseil militaire de transition a annoncé dimanche le report de ce forum prévu à partir du 10 mai à la demande du Qatar, médiateur d'un pré-dialogue à Doha entre la junte et les innombrables groupes rebelles. En Tunisie, le président Kais Saied a annoncé l'instauration d'un dialogue national, mais exclut tous les partis politiques qu'il juge responsables de la crise qui secoue le pays.
Le président tunisien s'est exprimé hier soir à l'occasion de la fête de l'Aïd, marquant la fin du Ramadan. Une commission va gérer le dialogue national, mais en seront exclus, selon le chef de l'État tunisien, ceux qui ont saboté, affamé et maltraité le peuple, sous-entendu les partis qui, comme Ennahda, ont dénoncé un coup d'État. 4 organisations vont y participer, la centrale syndicale UGTT, l'organisation patronale UTICA, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats. Ce quartet avait reçu en 2015 le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la transition démocratique en Tunisie. La mise en place d'un dialogue national a été maintes fois réclamée par les pays du G7 et l'Union européenne depuis que le président Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. Élu démocratiquement fin 2019, Kais Saied dirige par décret, il a dissous fin mars, le Parlement dominé par des coalitions menées par le parti d'inspiration islamiste Ennahda, sa bête noire.
En Éthiopie, des heurts ont brièvement opposé aujourd'hui au cœur d'Addis Abeba de jeunes musulmans à la police qui a usé de gaz lacrymogène en marge d'une prière collective de l'Aïd El-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Le point avec Rosine Monezero.
Les incidents ont commencé près du stade international d'Addis Abeba, à l'intérieur duquel était organisée la prière. Le stade étant plein, ceux qui n'ont pu y accéder priaient à l'extérieur, notamment sur la grande place Meskel, au cœur de la capitale éthiopienne. Les circonstances qui ont déclenché les incidents sont peu claires. Un responsable musulman affirme qu'un policier a tiré accidentellement une grenade lacrymogène vers des fidèles rassemblés pour la prière. De son côté, la police indique qu'une émeute provoquée par quelques individus lors de la prière de l'Aïd a provoqué des dégâts matériels, affirmant dans un communiqué que le calme a été rétabli. Elle ajoute qu'elle informera ultérieurement le public quant aux origines de l'émeute. C'est la première fois que la prière collective de l'Aïd à Addis Abeba est le théâtre d'incidents, a affirmé un membre du Conseil aux affaires islamiques.
Une course contre la montre est engagée au Burkina Faso pour sauver 8 mineurs coincés sous terre depuis 2 semaines à l'ouest de Ouagadougou. 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien sont bloqués dans la mine depuis le 16 avril après l'inondation de ces installations souterraines à la mine de zinc de Percoa. Le sort des mineurs émeut tout le pays. 8 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble de 3 étages dans un quartier de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Les détails avec Ginny Kapumbo-Villa.
L'immeuble s'est effondré dimanche soir vers 21h30 dans le quartier d'Ebute-Meta, dans la partie continentale de la mégapole nigériane. Le dernier bilan est de 8 morts et 23 blessés secourus avec divers degrés de blessures et soignés dans plusieurs établissements de santé. Le rez-de-chaussée, le premier étage de l'immeuble servait d'entrepôt, tandis que le deuxième et troisième étage étaient des résidences. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause de l'effondrement. Ce genre d'accident est fréquent au Nigeria, où les normes d'architecture et l'entretien des bâtiments sont souvent négligées. En novembre, l'effondrement d'un gratte-ciel en construction à Lagos avait provoqué la mort de 45 ouvriers. Une étude d'un chercheur sud-africain recensait 152 immeubles qui se sont effondrés à Lagos depuis 2005.
On en sait un peu plus sur l'attaque terroriste dans un commissariat de Monsey, situé dans la commune de Karimama, le 26 avril dernier, qui a fait un mort. Dans une publication audio sur les réseaux sociaux, le DNIM, qui est une organisation djihadiste, a revendiqué l'attaque du commissariat dans le nord du Bénin, en affirmant avoir emporté 15 fusils d'assaut, 2 pistolets sans chargeur et une forte somme d'argent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Ukraine espère pouvoir continuer à évacuer des civils de Mariupol. Les forces russes poursuivent leur offensive dans la région du Donbass, tandis que les Européens finalisent un projet d'embargo progressif sur le pétrole russe. Le point avec Eric Manirakiza.
Des évacuations qui ont commencé samedi en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le CICR ont permis pour la première fois en 2 mois d'évacuer plus de 100 civils terrés dans les caves de l'immense aciérie Azovstal. Dans le reste du Donbass, les forces russes poursuivent leur offensive. Dans le sud du pays, les Russes tentent aussi d'élargir la région qu'ils contrôlent autour de Kherson. L'armée ukrainienne a affirmé par ailleurs avoir détruit avec des drones 2 bateaux-patrouilleurs russes près de l'île aux Serpents en mer Noire. Les Occidentaux, qui ont accéléré leur livraison d'armes lourdes pour aider l'Ukraine, travaillent de leur côté à durcir encore leurs sanctions économiques contre Moscou. L'Union européenne finalise notamment un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué aujourd'hui que plus de 3000 civils avaient été tués en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. La plupart des victimes ont été tuées par des armes explosives comme des frappes de missiles et des frappes aériennes, a indiqué le Haut Commissariat sans en attribuer les responsabilités. La première dame des États-Unis, Jill Biden, va se rendre en Roumanie et en Slovaquie cette semaine pour rencontrer des familles de réfugiés ukrainiens, des travailleurs humanitaires et des militaires américains ainsi que des employés d'ambassade, a annoncé aujourd'hui son bureau. Ce voyage de Mme Biden, prévu du 5 au 9 mai, intervient après une visite surprise en Ukraine de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui a rencontré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Britanniques, eux, se rendent aux urnes demain, jeudi, pour des élections locales qui auront valeur de test pour le gouvernement conservateur et son premier ministre Boris Johnson, affaibli par des mois de scandale. Des élections locales auront lieu en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, ainsi que pour renouveler l'Assemblée d'Irlande du Nord. Nord à Belfast. Les résultats de ces milliers de scrutins locaux permettront de jauger le soutien des conservateurs dans le pays et seront un indicateur de la force ou non de l'opposition travailliste. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Eric Manierakiza.
Le canal de Suez a enregistré son plus haut chiffre d'affaires mensuel en avril à 605 millions d'euros après avoir récemment relevé deux fois les droits de transit. Malgré la guerre en Ukraine et la hausse du prix du pétrole qui ont touché le transport maritime, les revenus du canal ont augmenté de 13,6% par rapport à avril 2021, détaille Oussama Rabi, président de l'autorité du canal de Suez. Au Malawi, c'est la saison des récoltes dans les exploitations de tabac, mais les cours du marché toujours plus bas étranglent les producteurs, dont certains misent désormais sur le cannabis. Le secteur s'attend à des récoltes annuelles inférieures de 50 000 tonnes par rapport à la demande. Le Malawi se place au 7e rang mondial des producteurs de tabac, dont il tire 70% du produit de ses exportations. Le tabac a rapporté 164,5 millions d'euros l'an dernier, soit moins 27% par rapport à l'année précédente, selon la commission du tabac. La Banque centrale américaine aura mardi et mercredi une équation difficile à résoudre. À quel niveau porter les taux directeurs cette année pour contrôler l'inflation sans que cela ne plonge la première économie mondiale en récession? Relever les taux doit permettre de modérer la demande et ralentir ainsi la hausse des prix. En mars, la réserve fédérale Fed avait amorcé une hausse des taux plutôt prudente, plus 0,25%, mais il s'agissait de la première depuis 2018.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. La FIFA a publié aujourd'hui les sanctions imposées par sa commission de discipline à certains pays pour des incidents survenus lors de la compétition préliminaire de la Coupe du Monde Qatar 2022 au premier trimestre de cette année, notamment en raison du comportement abusif de leurs supporters. Certaines décisions peuvent faire l'objet d'un recours. En Afrique, la République démocratique du Congo payera plus de 125 000 euros pour les jets d'objets lors de son match contre le Maroc le 29 mars et envahissement du terrain de jeu pour son match toujours contre le Maroc le 25 mars. La RDC écope aussi d'un match sans supporters. Le Sénégal écope d'une amende de plus de 170 000 euros, 6 sanctions individuelles et match à huis clos pour utilisation du laser, non-application des règles de sécurité, non-respect du maintien de l'ordre public dans le stade, invasion du terrain de jeu, lancer d'objets, allumage de feux d'artifice lors de sa rencontre contre l'Égypte à Dakar le 29 mars dernier. L'Égypte avait demandé une disqualification des Lions Indomptables. Le Nigeria devra payer environ 150 000 euros et jouer un match à huis clos pour non-application des règles de sécurité et non-maintien de l'ordre public dans le stade, invasion du terrain de jeu et lancer d'objets lors de sa rencontre avec le Ghana le 29 mars. Enfin, l'Algérie devra payer environ 3 000 euros d'amende pour le lancer d'objets et allumage de feux d'artifice lors du barrage Algérie-Cameroun le 29 mars à Bida. Le président de la Fédération espagnole de rugby, Alfonso Feijóo, va présenter sa démission après l'exclusion de l'Espagne de la Coupe du Monde 2023 en France pour avoir aligné un joueur non éligible, le Sud-Africain Gavin van der Berg, pendant les qualifications. Il démissionnera lorsque les sanctions disciplinaires initiées seront bien avancées pour empêcher les futurs responsables de les suspendre ou les annuler. On a été tous trompés. Jamais je n'aurais pensé que quiconque aurait pu falsifier un document officiel de rugby, a affirmé Feijóo vendredi en conférence de presse. La Fédération espagnole a ouvert une procédure disciplinaire extraordinaire contre le club de Gavin, l'accusant d'avoir eu connaissance d'une possible modification d'un document officiel qui octroyait le statut de joueur éligible au Sud-Africain. Mais, selon le quotidien sportif Marca, c'est le joueur lui-même qui a falsifié une copie de son passeport.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, il a fallu attendre 8 mois pour enfin connaître la durée de la transition que dirigent les militaires qui ont renversé Alpha Condé du pouvoir le 5 septembre 2021. 39 mois, c'est ce que propose le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, quelques jours après la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. Le chronogramme sera soumis au Conseil national de la transition qui fait office de parlement. Voici quelques réactions à Conakry avec notre correspondant Zakaria Camara.
La durée de la transition est enfin tombée. L'attente a été si longue que les Guinéens, à l'image de ceux de la capitale, ne se font pas prier pour réagir.
Moi, je vis même à 4 ans, je vis. S'ils redressent les pays-là, s'ils quittent un autre président qui va venir, lui va travailler sans difficulté.
Moi, je souhaiterais qu'il diminue, parce qu'il y a trop de années. Ce n'est pas bon pour la Guinée, parce qu'on souffre, il n'y a rien qui rentre. Nous, on ne fait qu'acheter tout ce qu'on veut. On ne travaille pas, la jeunesse est là, chômage. Avec le pouvoir militaire, il n'y a pas garantie.
Normalement, il mérite 1 an, 6 mois, et le seul libre, transparent, il va partir. Nous, va sortir, manifester, jusqu'à lui, il va quitter.
C'est grâce à Doumbouya qu'on est en train de dire des transitions. Sinon, on va faire 6 ans. Avec Alpha Condé, mal gouvernance.
Selon l'article 77 de la charte de la transition, la durée est fixée après un accord entre les forces vives et le CNRD. Pour Belaba, acteur de la société civile guinéenne, cet article n'a pas été respecté.
D'entrée, il faut dire que c'est salutaire, mais on part sur une première violation de la charte de la transition. L'article 77 indiquait que la durée devrait être fixée entre les forces vives de la nation et le CNRD, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, autre chose qui n'a pas aussi été dit, c'est quand est-ce que cette durée va commencer? Est-ce que ça commence le 5 septembre 2021? Est-ce que ça va commencer? Quand ça va être promulgué et le décret sera pris? Autre chose, c'est le chronogramme. Ça veut dire quand est-ce qu'on va commencer quoi? Le fichier électoral, les élections communales, quel est le processus?
La junte au pouvoir a fait cette proposition de durée dans un contexte de division et de crise de confiance. Une partie de la classe politique, dont les partis des anciens candidats à la présidentielle, Sélou Dalein Diallo et Sidya Touré, a boudé les concertations. Le cadre même qui a servi de compilation des propositions des acteurs sociopolitiques. C'est la volonté de la majorité qui tranche les contradictions, a déclaré Mamadi Doumbouya, président de la transition, dans une adresse à la nation depuis Bofa, à 150 km de la capitale. Les propositions des concertations allaient des 18 mois à 5 ans. Comme on peut le constater, cette proposition de durée faite par la junte au pouvoir est loin de faire l'unanimité de la classe politique guinéenne. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Au Burkina Faso, les journalistes et les organisations professionnelles de médias s'inquiètent et dénoncent un certain musellement de la presse depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. Ils estiment que les médias ont un grand rôle à jouer, surtout dans le contexte d'insécurité que traverse le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Cela fait 3 mois que le pays vit une transition. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, les professionnels de médias constatent des cas de restriction de liberté des journalistes. Bourema Ouedraogo, directeur de publication du bimensuel Les Reporters et président de la Société des éditeurs de la presse privée.
Depuis que les militaires ont fait le coup d'État, la plupart des audiences, par exemple à Kossiam, ne sont pas couvertes par les médias. On se contente effectivement de faire un communiqué qui nous est envoyé par la direction de la communication de la présidente du Faso. Les militaires choisissent eux-mêmes de faire le travail à notre place et de nous envoyer un communiqué. Moi, je pense que nous sommes dans un contexte suffisamment délicat qu'il faut permettre aux médias d'avoir accès à l'information.
Ce n'est pas nous qui le disons. Les différents classements des Reporters sans frontières au cours des 5 dernières années montrent à souhait que nous sommes, en tout cas au niveau de la liberté de la presse, le Burkina est classé parmi les pays, a été pendant longtemps premier de l'Afrique francophone, parmi les 5 premiers du continent, et ce n'est pas rien.
Les médias devraient pouvoir être un partenaire de premier choix, surtout dans cette quête de sécurité, selon Aubin Gebré, directeur de l'information de la télévision privée BF1.
journaliste est perçu comme un dérangeur, comme un empêcheur de travailler en toute tranquillité. Les journalistes, dans leur travail, doivent pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à aider les forces de défense et de sécurité. On veut, au regard du contexte, imposer un autre type de journalisme aux médias, et je trouve ça dommageable. J'entends parfois des termes du genre il faut faire du journalisme patriote. Un journaliste reste un journaliste. Un journaliste qui travaille de façon professionnelle, c'est-à-dire qui respecte les règles d'éthique et de déontologie de son métier, c'est un journaliste patriote.
Ces professionnels de médias sont unanimes à dire que le Burkina perdra des points au prochain classement des Reporters sans frontières. La semaine dernière, dans une déclaration conjointe, cette organisation professionnelle a manifesté leur inquiétude sur des cas de restriction des libertés de la presse. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Tchad, d'anciens membres de Boko Haram qui ont renoncé à la violence et sont relogés dans leur village d'origine vivent dans la précarité. Selon le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, ils sont plus de 2544 repentis, dont des femmes et des enfants, ne bénéficient pas d'une politique de réinsertion sociale et constituent une menace pour les populations. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Les personnes âgées sont moins nombrées, mais surtout les enfants sont très nombreux. Au mois où je vous parle, le nombre de ceux qui quittent les Boko Haram pour regagner leur famille, le nombre évolue au fur et à mesure.
Kébir Mohamed Abdoulaye, chercheur associé du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme. Pour lui, les ex-combattants de Boko Haram, même s'ils vivent dans leur famille d'origine et bénéficient de l'hospitalité de leur entourage, ils constituent toujours une bombe à retardement.
Il y a certains qui n'ont pas de revenus et certains se trouve aussi dans une situation de traumatisme. Donc il faut décourager Boko Haram en pardonnant, en réinsérant les engagés Boko Haram dans la vie professionnelle. Et cela peut aussi encourager d'autres combattants qui sont encore sur le territoire de Boko Haram de regagner la légalité.
Docteur Mamadou Mohamed Souleymane, expert du bassin du lac Tchad sur la question de l'extrémisme violent et la gestion de la radicalisation des jeunes natifs de la province du lac, estime qu'il y a manque de volonté politique dans la prise en charge de ces désengagés.
Normalement, à l'image du Nigeria et du Niger, l'État doit créer un centre de réinsertion socio-professionnelle des repentis. Puisque si je prends au Niger, il y a un centre de transit et de réinsertion socio-économique. On amène les désengagés, on apprend un métier et on applique financièrement les anciens. Mais ce n'est pas le cas au Tchad. Maintenant, ils sont seulement dans la nature, ils sont en train d'errer et il y a une forte probabilité qu'ils repartent, ça constitue une menace.
Pour Abdelkirim Abakar, délégué de l'action sociale dans la province du Lac, ces désengagés bénéficient bel et bien d'un programme de prise en charge initié par le gouvernement tchadien et ses partenaires, notamment l'OIM, Organisation internationale pour les migrations.
Les repentis, on les maintient dans leur localité à leur octroi des agères, des activités comme du commerce, pour qu'elles ne repartent celui maintenant de l'autre côté. Actuellement, le ministère et l'OIM sont en train de faire des gymnastiques. Il y a un fonds qui est déjà là pour faire maintenant le projet, pour venir encore les gérer. Et les plus vulnérables, ces femmes-là. Donc maintenant, il faut les aider sur leur survie.
Ahmad Yacoub Dabio, président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, déclare à VOA Afrique qu'il ne croit plus au projet de réinsertion, mais plutôt au projet de développement global.
Ce projet est de 24 activités, dont la construction de 8 000 logements avec un coût d'environ 38 milliards de francs CFA. Je vous rappelle que selon un décompte réalisé par la Cour des comptes française, entre 2012 et 2018, les dépenses dans les pays des G5 Sahel ont plus que doublé, passant de 580 millions d'euros à 1,35 milliard d'euros. Donc si on prend une partie de ces dépenses et on les injecte dans le développement, on aurait évité des soulèvements des genres extrémistes.
La plupart de ces désengagés ont été certes réunifiés dans un village nommé Midikoura à une vingtaine de kilomètres de Bole, chef-lieu de la province du Lac. André Kodemadjingar Njamena pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a effectué une visite surprise durant le week-end à Kiev, où elle a été reçue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la tête d'une délégation du Congrès américain, elle a promis plus de soutien à l'Ukraine contre l'agression russe. Davantage avec Arash Arasabadi de la VOA, le récit est signé Jacques Aristide.
À Irpin, des infrastructures résidentielles ont été détruites après l'arrivée des troupes russes dans cette ville. Depuis le début de la guerre, de nombreux civils ont été tués dans plusieurs régions de l'Ukraine. Les puissances occidentales, dirigées par les États-Unis, ont promis un soutien indéfectible à l'Ukraine. Une solidarité sans équivoque qu'a voulu transmettre l'américaine Nancy Pelosi au chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kiev. Oksana Markarova, l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, a commenté le voyage de la présidente de la Chambre des représentants lors du programme This Week de la chaîne ABC hier.
It was a special delight to see Madam Speaker with the delegation in Kiev.
Ce fut un plaisir particulier de voir Madame la Présidente avec la délégation à Kiev rencontrer mon président. Je pense que c'est encore un autre signe de soutien très très fort dont bénéficie l'Ukraine ici aux États-Unis. Nous le sentons, nous savons que les Américains sont nos frères et sœurs dans ce combat pour la liberté et pour la démocratie.
Après la capitale ukrainienne, la délégation américaine s'est rendue en Pologne, où Nancy Pelosi a parlé de la récente demande de l'administration Biden pour un financement supplémentaire de la résistance ukrainienne.
Il s'agit d'un montant de 33 milliards de dollars, ce qui est une somme énorme. Nous sommes très fiers des 13,6 milliards de dollars que nous avons envoyés et nous arriverons jusqu'à la dernière tranche.
Une grande partie de cet argent a servi à armer les Ukrainiens. Pour des élus américains, il faut en faire davantage. Le républicain Michael McCaul a abordé le sujet hier dans This Week de la chaîne ABC.
Every day we don't send them more weapons.
Chaque jour où nous ne leur envoyons pas plus d'armes est un jour où plus de gens vont être tués, un jour où ils pourraient perdre cette guerre. Je pense qu'ils peuvent gagner, mais nous devons leur donner les outils pour le faire.
Lors de sa tournée, Nancy Pelosi a également réagi aux possibles représailles russes à l'aide militaire américaine à l'Ukraine.
Do not be bullied by bullies. If they're making threats,
ne vous laissez pas intimider par des brutes. S'ils font des menaces, vous ne pouvez pas reculer. C'est comme ça que je vois les choses. Nous sommes là pour le combat et vous ne pouvez pas vous plier à une brute.
Au cours d'une conférence de presse dans la ville ukrainienne de Lviv aujourd'hui, la chargée d'affaires américaine, Christina Kevien, a dit espérer le retour des diplomates américains à Kiev d'ici la fin du mois de mai. Ils ont quitté la capitale ukrainienne en février dernier, quelques jours avant le début de l'invasion russe.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.